Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai deux livres en main. J'ai la Bible et j'ai ici un témoignage. Témoignage de ce que Dieu peut faire dans des vies. C'est un vieux livre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque qui date de 1975. Vieux, hein? Et il y a une question importante qui est posée dans ce livre, comme titre. Que ferait Jésus à ma place? Cette pensée m'a tourné dans la tête toute cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, tu vois cette phrase, que ferait Jésus à ta place? Ça m'interrogeait. Je pensais que ce que je vivais dans le quotidien correspondait à ce que Dieu attendait de moi. Mais ça m'a fait réfléchir. Hop, c'est la distribution de papier. Je suis toujours à l'ancienne, comme on dit. Moi, je n'aime pas l'ordinateur. Ouais, on peut m'en servir, mais ce n'est pas une question primordiale pour moi. Je préfère écrire. Écrire ce que Dieu me met comme pensée. J'ai plein de notes à la maison. J'ai fouillé hier, j'ai cherché s'il y avait quelque chose qui était en rapport à ce que j'avais eu comme pensée. Et j'ai rien trouvé dans mes notes. Mince. Il a fallu que j'improvise. Parce que vous savez, quand on a des notes qui datent depuis des années, on a des bonnes pensées qui ont été. J'ai dit, en 89, j'avais dit ceci, c'est pas possible. 89, 2019, ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, cela me vient me frapper. Comme quoi il est important, parfois, de se rappeler ce que Dieu nous a pu nous donner dans les années passées. Les bonnes choses, hein, je dis bien les bonnes choses. Oh, parfois, c'est les épreuves aussi, les difficultés. Il nous reprend sèchement. J'ai été repris plusieurs fois sèchement. Je ne l'ai pas proclamé. Je ne l'ai pas, entre guillemets, divulgué. Mais Dieu m'a repris maintes et maintes fois. Afin que je reste dans le plan que lui avait pour ma vie. Bon, ces derniers jours, cette interrogation me tournait dans la tête. C'est une interrogation très particulière, n'est-ce pas? Et aussi, et très simple, que ferait Jésus à ma place? Car si on regarde notre vie, souvent, nous agissons sur des pulsions, sur des élans qui peuvent être bons, comme des élans qui peuvent être néfastes pour nous comme pour les autres. C'est notre vie, vie humaine, aujourd'hui. Des élans, comme je dis tout à l'heure, l'ordinateur, bon, ça va, je vais regarder mes emails, point final. Facebook, connais pas. YouTube, connais pas. Je suis inconnu au bataillon. Merci. Personne ne peut venir me chercher des noises. Je n'ai pas dit de bêtises, je n'ai rien écrit qui pourrait être fallacieux et que pour les gens pourraient après me le remettre dans le nez, hein, et même des frères et sœurs qui vont souvent sur Facebook, ça, je sais bien. Mais il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de très mauvaises choses. Il y a le dark net, l'informatique noire, sale, difficile. Compliqué. Je me rappelle une année, au début, dans l'église, on a eu un visiteur qui est venu à la maison. À cette époque, c'était pas comme aujourd'hui l'Internet, il fallait téléphoner chaque fois pour avoir l'appel. Et puis, cet homme, je ne vais pas citer son nom, ce n'est pas la peine, dit, est-ce que je pourrais utiliser ton ordinateur? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je remarque? Ce frère examinait tous les dossiers que j'avais pu visiter. Oh, la suspicion, hein? Vous savez, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui concerne la pornographie, ce genre de choses, apparemment personne ne sait, mais on peut découvrir. Je l'ai laissé faire parce que j'étais clean. Mais je me dis, attention, comment peut-on parfois avoir de la suspicion les uns envers les autres pour l'état dans lequel ils se trouvent et de ce qu'ils font. Dieu m'avait gardé, m'avait protégé. C'était quelque chose de fort et qui manifestait vraiment que je voulais marcher avec Dieu sans avoir besoin de le proclamer. Il avait lu. Je laissais, ça défilait. Il pensait que j'ignorais, mais je savais ce qu'il faisait. Il a été penaud, hein, parce qu'il n'y avait rien de tendancieux dans ce que je regardais. Je ne regardais même pas, j'écrivais. Il y a un tel ou un tel. À ce moment-là, il y avait la mission. On s'occupait de la mission en Afrique. Et j'étais un peu le correspondant, disons, des différents missionnaires qui étaient là-bas pour annoncer les nouvelles dans les églises. Je donnais toutes les nouvelles, bonnes ou mauvaises ou difficiles. Et cela, on pouvait prier pour eux. C'est important. Alors, que ferait Jésus à ma place ? Ce qui est important pour notre vie, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est que nous marchions dans la vérité et dans le désir profond d'honorer Jésus par ce que nous faisons. Il y a dans la pensée souvent de nos chrétiens, avec les traditions anciennes, qu'il faut faire des œuvres. Il faut avoir des actions et des activités. Mais est-ce que l'on demande toujours à Jésus ? Est-ce que tu es d'accord pour ce que nous faisons là ? Ou bien nous disons, t'as vu Seigneur ce qu'on a fait pour toi ? Hein ? Je travaille pour toi, mais je racontais hier à des amis qui étaient invités à la maison, l'histoire d'une femme qui râlait, qui grognait. Elle tenait un centre d'accueil, et dans ce centre d'accueil, elle était fatiguée, épuisée, et puis elle disait qu'elle n'avait pas assez d'aide. Elle était en train de ronchonner. Et Dieu lui dit, ma sœur, je ne dis pas son prénom. Je ne t'ai jamais demandé tout ça. Je ne t'ai jamais demandé tout ça. On fait des actions, on rentre dans un formalisme chrétien dans lequel il faut qu'on fasse des choses sans avoir demandé à Dieu ce qu'il veut. Sans avoir posé cette question. C'est important. Vous savez, quand on a commencé l'Église et que je me suis intéressé à la mission, c'était en 88. Et on est allé première fois 15 jours en Centrafrique et on est retourné l'année suivante. Les gens disaient, oh, ces gens-là, ils sont trop âgés. On ne les verra pas l'année suivante. Mais bien vite dans notre cœur d'aller là-bas pour un temps partiel, missionnaire à temps partiel, pour un mois tous les étés, pendant 10 ans. Et je me rappelle qu'on était allé visiter le pasteur de l'époque au Chandelier à Grenoble, Pierre Truchel, sachant que j'étais enseignant par ailleurs. Il m'a posé la question, est-ce que tu ne pourrais pas diriger le collège biblique, le collège normal qui se trouve au Tchad, dans le sud du Tchad, comme directeur ? Et on a dit, tous les deux, Marie-Thérèse et moi, on a dit non. Parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait, et on le savait. On était ici, à Rennes, c'était pour l'œuvre de Dieu, et il avait besoin qu'on soit là et qu'on agisse ici, sur place, sur le terrain, plutôt que de partir et de fuir les réalités de ce coin d'ici pour aller vivre des choses exceptionnelles là-bas. Que aurait fait Jésus à ma place ? Nous le savions. C'était sa réponse à nous, à lui, pour nous. Vous n'irez pas là-bas, vous irez à temps partiel, vous ne serez pas des missionnaires à temps plein. Vous pourrez aller aider ponctuellement et pour faire du bien. Mais vous avez du travail à faire ici. Je vous appelle ici, pour sa gloire. Et ça, on a été vraiment encouragés et fortifiés, tous les deux, de vivre ces moments, ce qu'on a vécu depuis ces années et ces longues années, dans lesquelles, depuis 30 ans, Dieu nous a bénis, nous a encouragés, persévérer, malgré tout et contre tout, parce que nous attendions toujours les réponses de Dieu. On lui demandait. Et c'est pour ça que cette semaine, le Seigneur m'a rappelé, Seigneur, que ferais-tu à ma place ? Seigneur, que ferais-tu à ma place ? Que ferais-tu à ma place ? C'est essentiel pour nous tous chrétiens, aujourd'hui. Parce que vu la situation mondiale, la situation qu'il y a autour de nous, avec les exigences, avec les demandes, parfois inconsidérées que l'on peut proférer, l'égoïsme latent, l'individualisme qui se développe de plus en plus au milieu de nous, chacun pour soi, mais pas Dieu pour tous. Hein. Et surtout pas Dieu avec nous, qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Je suis étonné et bouleversé de voir ces situations que nous vivons dans le quotidien de notre vie, avec toutes les récriminations, avec les demandes, les exigences. Je me dis, mais le monde, c'est comme un bébé. Quand un bébé vient de naître, dans les premiers mois, il pleure tout le temps, hein, il crie. Alors, si on le prend, il ne pleure plus. Hein, hop, ça y est, on a les bras, ça va. On le repose dans le berceau. Oh, il se remet à crier. Ça devient un tyran. Et souvent, nous sommes les hommes des tyrans. Pour les autres, exigeant, voulant à tout prix que les choses se fassent comme on le veut. Quand on regarde le psaume 73, on va lire quelques passages dans ce psaume. On l'a lu dernièrement, d'ailleurs, à l'église. Comme il dit ici, il commence ce psaume en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, mais, toutefois, mon pied allait fléchir en regardant la réussite des méchants. » Quand on regarde le verset 5, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et l'événement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, le peuple de Dieu, se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi tous les méchants, oui. Alors, Asaph, ici dit, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je tarirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Est-ce que ce n'est pas vrai pour vous, nous ici? Quand nous voyons les choses autour de nous, quand on voit comment les choses se déroulent autour de nous, dans le monde entier, pas simplement la France, on le sait, tous les événements actuels, mais ailleurs, où on voit que les plus riches possèdent 90% de la richesse mondiale, 10% ou même pas 1% de la population mondiale. Il y a de quoi se révolter. Oui, humainement parlant. La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Notre espérance, elle n'est pas terrestre. Elle est céleste. Notre espérance n'est pas pour ce monde aujourd'hui, c'est pour le monde à venir, dans la présence de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre. On n'a pas à espérer ici aujourd'hui. Parce que souvent, l'espérance, c'est comme des vœux qu'on formule. On pense que ce serait possible, mais l'espérance que nous avons, qui est comme une ancre qui est lancée dans le ciel, à travers le voile, une encre qui part d'en bas vers le haut, et non pas une encre qui va du haut vers le bas. Un bateau est ancré dans le sol, oui, d'accord. Mais nous sommes ancrés dans le ciel. C'est là qu'est notre certitude, où nous pouvons voir ce que Jésus est, ce qu'il veut pour nous, et ce qu'il veut accomplir dans nos vies. En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine, comme un songe au réveil. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Nous avons besoin, frères et sœurs, de réfléchir à cette situation charnelle humaine dans laquelle nous pouvons vivre dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Comment peut-on, humainement parlant, ne pas se comparer les uns aux autres? Et Dieu nous dit, nous sommes égaux, tous égaux en Jésus-Christ. Qu'on soit grec, romain, à l'époque, qu'on soit juif ou pas juif. On est tous un, esclave ou maître. Aujourd'hui, si l'esclavage a disparu d'une façon légale, il existe d'une façon incroyable aujourd'hui. Des esclaves, le monde est rempli d'esclaves, soumis à toutes sortes de pulsions. Dieu veut nous dire, gardez-vous, veillez sur votre vie, sur votre langue, sur votre attitude, sur votre comportement. Je me rappelle toujours que j'étais allé aux États-Unis en 1984, c'est vieux. Je ramène le souvenir ancien, mais hein, pas grave, c'est mon histoire. Bon, c'est pas la vôtre, ça pourrait. Je me rappelle toujours que j'étais allé visiter avec un pasteur baptiste de l'époque, qu'on était allé visiter les églises américaines, baptistes américaines, à travers toute l'Amérique profonde, les États du Sud. Et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai été déçu aussi et un peu troublé par la façon dont les chrétiens à cette époque vivaient déjà. Et puis j'étais à l'aéroport de Washington et j'avais avec moi mon Nouveau Testament. Puis j'attendais dans le hall pour le départ de l'avion. Puis je lisais, ouais, j'avais ce Nouveau Testament à la main. Puis quelqu'un me frappe sur l'épaule. Oh. Je me retourne et puis il y a un monsieur qui me dit: super. C'était un Américain. Mais il me voyait, moi, là, qui était là, dans ce hall, avec ce Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'est un peu moins, hein. Mais je connais la parole de Dieu, et puis on voyage beaucoup moins aussi. On a pu voyager à l'époque. Mais ils étaient vraiment... On est vus. Les gens nous voient, nous remarquent. Si vous allez dans un magasin et que vous êtes tenté par un CD... et que vous le mettez dans votre poche et vous voulez passer à la caisse. Quelqu'un vous a vu, mais le Seigneur vous a vu. C'est une tentation qu'il peut avoir chez le chrétien aujourd'hui. Oh, un beau CD de musique extraordinaire. Peut-être pas les musiques modernes, mais bon. Puis on a peut-être pas. Hein, puis, et on passe. Et on peut trépasser. Parce qu'à la fin de notre vie, peut être raccourci. Si nous sommes ceux comme cet homme qui avait fait de grandes récoltes, qui voulait construire des silos, pas des silos, mais à l'époque, mais c'est des granges pour ramasser son grain, et Dieu lui a dit, ce soir, je te reprends. Tu n'en profiteras pas. Que ferait Jésus à ma place? Oh, j'ai écrit hier soir. Je crois que j'ai 7 ou 8 feuilles. Dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, il est écrit ceci: car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes les sarments, je suis le cep. Donc j'ai pris ce livre. Il est écrit par un certain M. Sheldon, et qui raconte l'histoire d'une église dans l'État de Michigan, pas loin de Chicago. Et le pasteur s'appelle le révérend Henry Maxwell. Tout ce livre, je vais le mettre à la bibliothèque parce qu'il n'y est pas, pour que les gens puissent le lire. assez intéressant. C'est une église de nantis. Où dans cette église, il y a tous les élites de la population du coin. Le directeur du journal, le sénateur, je suppose, un médecin de renom, un grand chirurgien, et d'autres encore qui sont là, bien fiers d'eux-mêmes d'être à la meilleure église de la ville, avec la meilleure chorale. Bon, ici, on a la meilleure équipe. Amen. La meilleure chorale, avec une voix d'une jeune femme qui a une voix magnifique, c'est une cantatrice, ça emballe tout le monde. Les gens regardent des choses qui sont humainement parlant très belles. Mais qu'est-ce que Dieu veut ? Et le pasteur, qui préparait son message pour le dimanche, entend frapper à la porte. Et qu'est-ce qu'il voit à la porte ? Il voit un homme un peu dépenaillé, maigri et terrible, qui était là devant la porte. Il dit, vous désirez, monsieur ? Oui, vous savez, je suis au chômage depuis un certain temps. C'est, je crois que c'était dans les années 1920, quelque chose comme ça, peut-être, un peu plus tard. Je suis là et je voudrais bien que vous puissiez m'aider à trouver un travail. Il savait que dans l'église, il y avait aussi le chef des ateliers de la ville qui était là. Il avait dû entendre. Puis le pasteur était bien embêté. Moi, dans ma position, il dit, pasteur, je ne peux pas te vous donner un travail, c'est dommage. C'est dommage parce que si j'avais pu, je l'aurais fait, mais vous savez, je suis très occupé. Hop ! Ah ! Très occupé. L'écoute a été très courte. Puis il partait dans son bureau. Puis voilà que, dans l'après-midi, quelqu'un vient le visiter, c'était une femme qui tenait une crèche. Et cet homme qui était venu voir le pasteur est allé aussi à la crèche. Il regardait les enfants, peut-être que sa petite fille qui était là, dans la crèche, qui ne pouvait pas s'en occuper, elle n'avait pas les moyens, elle avait été confiée à une famille. T'es là, et puis, tiens, cet homme, oui, c'est quand même surprenant. Oh, le dimanche matin, le pasteur fait son merveilleux message, un message très engageant, très engagé, où il y a vraiment, on sent la puissance du Saint-Esprit qui agit. Et puis, à la fin du culte, une voix se lève dans l'église, « Est-ce que je pourrais parler ?» C'était cet homme dépenaillé qui voulait parler. Il leur a dit, vous êtes bien à l'aise, vous. Moi, je ne suis qu'un chômeur, je suis un typographe avec les nouvelles machines. Maintenant, je n'ai plus de travail. Mais je vois que votre cœur a besoin d'être touché afin que vous fassiez ce que Jésus voudrait que vous fassiez avec vos moyens. Branle-bas de combat dans l'église. Cet homme est parti, il s'est effondré. Il s'est effondré dans l'église, d'inanition, malade. Il est mort 8 jours plus tard, en laissant une petite fille, sans parents. Que faire ? Que faire ? Comment agir ? Comment même réagir dans l'église ? Et le pasteur, bon, il a dit, bon, maintenant, c'est le refus, c'est terminé. Bon. Et puis, il s'en va, et puis il va dans la bibliothèque où il allait tout le temps, et bien, il y a une cinquantaine de personnes qui sont là et qui attendent, qui veulent lui parler de ce qui s'est passé et de la manière qu'eux aussi ont été touchés. Que peut-on faire ? Comment peut-on agir ? Que ferait Jésus à ma place ? Ça a été un bouleversement dans l'Église, et pendant... le pasteur avait dit, ce serait bien qu'on puisse pendant un an penser à cette phrase, pendant un an, que ferait Jésus à notre place ? Et l'Église a été bouleversée, travaillée de toutes parts. Ça fait un peu boule de neige par ailleurs, c'était comme un réveil qui se produisait. Parce que les personnes avaient besoin de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls à agir, mais que Dieu était là et qu'il avait aussi, lui, des choses à dire et à montrer. Nous avons à faire attention, frères et sœurs, en tant que chrétien, à ne pas faire les choses sans la conviction que Dieu agrée ce que nous faisons. L'Évangile, c'est une belle parole. Parole, mais il faut aussi des actes. Il faut l'application de l'Écriture, il faut la mettre en pratique. Suivre les traces de Jésus, c'était le message du pasteur. C'était comme un trait. Suivre les traces de Jésus. Marcher comme Jésus marchait. Faire ce que Jésus faisait. La manière dont il écoutait et comment il répondait aux questions. Souvent, il ne répondait pas vraiment à la question. Il répondait à la question qui était cachée dans la vie de la personne. Quand il posait une question, ce n'était pas la vraie. Et Jésus, il trouvait la bonne réponse pour la question posée à l'intérieur. Cet homme lui a dit, prétendez-vous suivre ses traces ? L'interpellation est là. Pour nous aussi, aujourd'hui, une interpellation est là. Parce que dans le monde que nous voyons, avec tous ces gens qui sont déboussolés, qui sont à la recherche de quelque chose qu'ils ignorent, ils veulent une justice, ils veulent de l'équité, ils veulent de l'amour, de la compassion, de l'intérêt porté. C'est vrai, mais les méthodes ne sont pas bonnes. Et si, on peut dire, nos églises, les églises chrétiennes en France se mettaient en mouvement, moi, le premier, je me sens concerné. Parce qu'il y a tant de souffrance et de tristesse autour de nous. Visible, mais souvent bien plus invisible. Où des personnes, des hommes et des femmes sont dans une détresse intérieure. C'est un sujet de prière important pour nous tous, que nous puissions voir ce que Dieu nous demande de faire. Pensez tout à l'heure à deux choses importantes dans la vie chrétienne. Bon, il y en a même trois, que dit 1 Corinthiens 13, 13. Ces trois choses demeureront, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des choses, c'est l'amour. Les trois choses, la foi, l'amour. J'ai pensé, moi, comme je fais des mathématiques, à un graphique. Vous voyez ce que c'est qu'un graphique, un trait vertical, un trait horizontal. Le trait vertical, c'est l'amour. Bon, c'est la foi. C'est la foi verticale. Et le trait horizontal, c'est l'amour. Et sur ce graphique, il y a des points qui se placent sur le graphique. Des points. Pour chaque vie, un point avec l'abscisse et l'ordonnée. Hein. S'il y en a qui connaissent les mathématiques, ouais. Où la dimension de notre foi et la dimension de notre amour se conjuguent pour donner un point. Et tout au long de notre vie, il y a des points comme ça qui sont marqués. Et notre vie, c'est une courbe. Pour certains, la foi, c'est boum, c'est dégringolé. Et puis, il y a l'amour. Ben, c'est sur l'amour, dans un sens, peut-être pas toujours celui que Dieu attend. Pour d'autres, c'est la foi. Mais l'amour, où est-il? Quand on parle des commandements de Dieu, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton cœur, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Notre vie, c'est un graphique dans lequel Dieu met son point. C'est lui qui met, ce n'est pas nous. Et chaque jour, pour nous tous ici, il y a un point qui s'ajoute à un autre. À quelle hauteur est votre courbe? L'idéal, c'est, on pourrait parler de la bisectrice, hein, le milieu. C'est égal foi et amour, dans l'égalité des relations. Mais c'est tellement fluctuant, n'est-ce pas? En fonction de notre forme de pensée et de nos réactions, face à des actions particulières. Pensez à ça, hein? Vertical, horizontal, la foi, l'amour, qui se conjuguent. Et la troisième, c'est l'espérance. Bon, l'espérance, j'ai dit tout à l'heure, elle est en haut, celle d'en haut. Dieu marque notre vie d'une façon indélébile. On ne peut pas l'effacer. Il est marqué que chacun rendra compte pour soi-même. Notre responsabilité de chrétien, qui s'étend à l'égard des nôtres, comme il dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. C'est un verset de la Bible. Les frères et les sœurs dans la foi et son prochain, ceux qui sont dehors. J'ai vécu il y a de nombreuses années, je crois que c'était en 91, une expérience extraordinaire. On faisait le culte à la maison chez nous. Et puis au moment de la Sainte-Cène, j'ai eu une vision particulière, très particulière. Le Seigneur Jésus m'est apparu dans son état de crucifié. Passe plus sur la croix, mais crucifié avec les mains percées, avec les pieds percés, avec le cœur percé, la couronne d'épines sur la tête. C'était une image à la fois glorieuse et terrible. Et il m'a adressé la parole. Il m'a dit, tu vois mes pieds percés, ils ont été percés pour toi. Que ta marche me soit soumise. Que ta marche me soit soumise toute ta vie. Que tu te rappelles de ce que j'ai été. Mes pieds ont été percés pour toi. Pour toi. C'est un prix à payer pour ta vie. Dans ce monde où tout était en mouvement déjà à cette époque-là, ça ne fait qu'empirer. Puis, il m'a dit, tu vois mes mains, percées pour toi, que tes actes, parce que quand on fait les choses avec ses mains, c'est des actes qu'on fait, qu'on manifeste, que tes actes me glorifient. Mais si parfois tu hésites, je serai là avec toi pour te fortifier et t'apporter la force suffisante pour persévérer. Combien de fois dans nos actes, les choses ne sont pas dignes de Dieu. Mais Dieu nous rappelle et nous freine et nous dit, attention, la marche, les actes. Puis il y a eu son cœur qui était percé. Il a été porté, percé pour toi, me dit-il. Que ton cœur soit en communion avec le mien et que toute amertume et toute colère qui pourrait t'animer sorte de toi, soit ôtée de toi. Que tel que je suis, que ton cœur soit aussi animé de compassion et de miséricorde. Fuis la colère. Et moi, j'ai renseigné toute ma vie depuis ce temps-là. C'est des choses qui étaient dans ma vie, qui m'ont bouleversé année après année. C'était quelque chose d'extraordinaire que je vivais. Puis il m'a dit, tu vois ma couronne d'épines? La couronne d'épines. Ils ont voulu détruire mes pensées. Mais elles sont toujours là et toi aussi, pense comme moi et non pas comme le monde pense. C'est difficile. Écoute mes pensées. Qu'aucun doute puisse demeurer dans ta vie. Il y a une image qui est donnée dans ça, que le doute, c'est comme un oiseau qui fait son nid. Si on le laisse faire le nid, il revient. Et même l'agrandit. Et si le doute grandit en toi, attention. Le Seigneur nous libère de cela. Il m'a dit, je veillerai. Je veillerai. Cette expérience a été quand même quelque chose de bouleversant. Avoir cette vision et pouvoir aujourd'hui la partager parce que je ne l'ai pas divulguée. Ça, c'était entre lui et moi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important que ce que je viens de vous dire puisse aussi toucher vos cœurs et vous apporter cette certitude que Dieu vous aime et veut vous aider à vivre cette dimension-là. J'ai compris que les projets qu'il avait pour moi s'accompliraient même si je me rebellais, même si les épreuves venaient. Il me ferait avancer dans la direction qu'il veut. Et les oppositions n'ont pas manqué, les épreuves n'ont pas manqué. Mais Dieu a été toujours là et m'a aidé, m'a entouré, m'a fortifié. Et je voudrais que vous soyez encouragés vous-même à travers ce que j'ai pu vivre et qui peut vous arriver aussi à vous. C'est important de saisir ce que Dieu veut de nous. Il est près de nous. Il veut nous donner des choses qui pourraient nous sembler incompréhensibles, irréalisables, mais il le fait. Je n'avais pas d'autre possibilité que me soumettre à lui. Je n'avais pas d'autre possibilité que me soumettre à lui. Et qu'il fallait dire Amen à ce que lui voulait. Pas de discussion, que des échanges. Parce que quand on parle de discussion, c'est des oppositions avec les oui mais. Et des échanges, quand je vois aujourd'hui les hommes politiques, quand ils sont en discussion, mais c'est affreux! C'est des gamins! À vouloir défendre à tout prix des points de vue qui ne sont pas défendables. S'ils connaissaient le Seigneur, s'ils le connaissaient, les choses changeraient. On peut essayer de donner aux gens des directions. Mais ces directions, il ne faut pas qu'elles viennent de notre cœur, de notre pensée à nous, de notre conviction, de notre interprétation. Ce que Dieu veut, c'est que ce soit sa parole qui aille de l'avant et que nous marchions dans la même direction que lui veut. J'ai vécu ces choses. Elles sont là encore en moi. Dieu me le rappelle. Et il m'a rappelé ces choses personnellement, hier après-midi, quand je préparais cela. Dieu nous inspire, je crois, à marcher dans les directions. J'ai pu aller jusqu'à aujourd'hui, hein, m'arrêter à vaincre les épreuves hein, avec mes opérations que j'ai eues. Mais je suis vivant pour lui, et je veux le proclamer. Je veux que vous aussi puissiez être vivant pour lui. Quand nous sommes mariés en juillet 85, Marie-Thérèse, le 6 juillet, le verset de notre livret de mariage était celui-ci. C'est dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 2, qui dit ceci. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. » Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Et nous l'avons vu. C'était une réalité. Dieu nous avait donné ce verset. Eh bien, c'est bizarre, hein ? Ça n'a rien à voir avec un mariage, hein ? Il y a des belles paroles. On veut chercher les meilleures paroles, les paroles qui sont les plus engageantes, les plus réjouissantes à travers hein, « Je t'aimerais tout... Hein, » Mais là, je reconnais que tu peux tout. C'est pour ça que sur notre alliance, on a marqué nos initiales et au milieu, on a mis « D ». Seigneur, avec nous, dans notre vie de tous les jours. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Dieu est grand et puissant. Et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à vous interroger sur cette question que j'ai en introduction. Que ferait Jésus à ma place ? Nous pouvons prier. Seigneur, merci pour ce matin, pour ce que tu veux nous donner à chacun d'entre nous ici, petits et grands, quelle que soit notre dimension, on pourrait dire, entre guillemets, que nous pouvons croire, spirituel ou non, que chacun puisse être en relation avec toi, Seigneur, et que votre interrogation, comme a été la mienne, vous conduise à vivre des choses qui vous sont inconnues aujourd'hui. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu veux nous donner, au-delà de ce que nos projets peuvent être aujourd'hui, dans notre tête, tu peux conduire notre vie d'une façon totalement différente de ce que nous espérions. Mais c'est pour notre bien et non pas pour notre mort. Merci, mon Dieu, pour ce que tu nous as donné ce matin et ce que tu m'as apporté de partager avec vous. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen.